Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui fait chambre à part.
Yes.
Oui, non, parce que malgré ce que les apparences pourraient laisser croire, nous ne vivons pas ensemble avec Thio. Bonjour Thio.
Bonjour au fait, ouais, c'est cool.
Et on part en vacances séparément, ce qui fait que c'est vachement la galère pour nous organiser, pour nous passer les BD et préparer ces émissions de l'été où on ne s'est pas arrêté. Voilà, on a réussi à faire presque croire qu'on ne s'était pas arrêté, ce qui est très très fort. Heureusement qu'il n'y a pas eu de grands bouleversements dans l'actualité de la bande dessinée, sinon on aurait eu l'air très très con. Mais en général, l'été, il se passe rien en BD.
Bah, enfin, on aurait pu dire aussi qu'on n'avait pas envie d'en parler.
Ouais, c'est ça. Enfin, non, on n'aurait pas pu, vu qu'on n'aurait pas su. Donc, aujourd'hui, une émission, tout ce qu'il y a de plus classique, notre dernière émission de l'été. On va faire une petite pause d'une semaine supplémentaire, ce qui fait que la prochaine émission sera le 11 septembre. Parce qu'en fait, il faut qu'on souffle et tout. Il y a Thio qui a encore plein de vacances.
11 septembre.
Ouais. Il y a Thio qui encore, faudra qu'on te fasse un truc spécial peut-être. Il y a Thio qui aura plein de vacances encore et donc lui il va aller glander non-stop. C'est très très dur. Et donc, on va commencer d'abord pour vous signaler que merci à vous. Merci à vous, grâce aux achats que vous avez faits via les widgets Amazon sur le site, on a franchi le palier qui va nous permettre d'avoir un petit bon d'achat pour nous acheter quelque chose. Et puis on s'est dit que bah, c'est vous qui allez choisir. On a jeté un œil à tout ce qu'avaient proposé nos invités, et puis on a sélectionné ce qui nous tentait. On a donc sélectionné 4 bandes dessinées qui ont un peu rien à voir les unes avec les autres. Et on va rapidement mettre un petit sondage sur le site. C'est vous qui voterez pour savoir ce qu'on achète. J'espère que ça va vous plaire, c'est rigolo. Donc nous avons Pyongyang de Guy Delisle qui nous avait été proposé par Antoine Boza. Nous avons Le bleu est une couleur chaude. Et là j'avoue que j'ai oublié Marot. Je ne sais plus son nom, mais c'est Julie Marot. Et c'était Emir Ki qui nous en avait parlé. Nous avons Rose couleur rouge qui nous avait été proposé par un des membres du gang.
Mélanie, je crois.
Ouais. Et nous avons Doggy Bags, qui nous a été proposé par Merton. Avec tout ça, il y a quand même des trucs qui sont assez variés. On vous laissera voter, choisissez habilement si vous quelque chose ce qui vous semble le plus intéressant, ou ce dont vous voulez qu'on parle, ou bien ce que vous avez aimé vous-même. Ensuite, un super, super grand merci à Carotte. Carotte, un de nos auditeurs de la première heure, qui a surtout laisse souvent des commentaires sur le blog et nous l'en félicitons. Carotte qui a fait quelque chose de dingue, il a fait un fichier dans lequel il a noté le nom de toutes les émissions, de toutes les BD dont on parlait, et il nous en a tiré des stats. C'est un travail énorme parce que nous-mêmes on l'a pas fait parce qu'on est des gros flemmards. Ouais. Et vas-y, regarde-moi, genre, t'es pas un gros flemmard.
Bah, je suis pas une feignasse, moi je dis que je fais rien, c'est pas différent.
Ouais, c'est ça. Toi, t'assumes, tu vois. Donc, c'est génial, je vais essayer de mettre ça en ligne assez rapidement. Genre, en théorie, c'est fait, là, maintenant. Il y a peut-être quelques erreurs dans le fichier qui traînent, moi je vais essayer d'en corriger quelques-unes, mais je le mettrai en accès libre, donc vous pourrez faire les modifs que vous voulez. Je trouve ça super sympa, ça fait super plaisir. Ensuite, n'oubliez pas qu'on vous a mis le lien vers nos collections de BD.
Et là, il ne s'est définitivement rien passé.
Donc, vous pouvez y jeter un œil. Oui, j'avoue que les collections ne sont pas forcément les plus ergonomiques à consulter. Jetez un œil. Et si vous avez une BD dont vous voulez qu'on parle, bah, nous, on ressortira nos vieux cartons de BD. Alors, si vous vous dites, je veux que vous parliez de tout 2099, vous attendez pas à ce qu'on le fasse de suite. Hein, parce que j'ai 49 numéros, un truc comme ça, derrière. Mais, genre, tous les petits hommes. Hein.
Je ne les ai pas tous.
Ah, en plus, il faudra faire des courses. Mais bon, t'en as un paquet.
Oui, j'en ai un paquet. Ouais, mais
t'as les tuniques bleues aussi.
Oui. Donc, bon, aussi, j'en ai un paquet.
Dans les grands classiques. Voilà, donc à vous de choisir. C'est votre émission.
C'est beau comme ça.
C'est beau, ouais. On va peut-être s'attaquer aux choses sérieuses.
Bah ouais, parce qu'on n'a pas parlé de BD encore.
Ah oui, oui, oui. Notre presque neuf, et on commence avec La France de tout en bas. un ouvrage sorti aux éditions Bacabédé, réalisé par le studio Macma. Studio Macma que vous connaissez peut-être, car en gros, c'est un studio avec plein de gens qui font du scénar, de la bande dessinée. Des membres assez actifs sont genre Benjamin Basso et Edmond Touriol, dont on entend pas mal parler. Puis Edmond Touriol, on en a déjà parlé, car c'est un traducteur qu'on apprécie. Donc là, c'est 4 scénaristes, une dessinatrice et 3 coloristes, et un lettreur qui ont travaillé dessus. Le sujet, c'était de... Donc, on est dans un genre, c'est de l'humour social. L'idée, c'était de parler des SDF et de leur vie dans une bande dessinée à gag. Donc, en gros, ce serait limite les SDF, la bande dessinée. Sauf que ça a vocation à être un one-shot, donc il n'y aura pas 40 tomes comme les blondes. Et nous allons commencer par parler du dessin. Et j'ai dit que le dessin était rigolo.
Humoristique.
Oh, c'est du rigolo humoristique. Alors, graphiquement, je trouve que ça a de la gueule. Le travail de Rubin est très joli. J'aime bien les gueules des personnages. J'aime beaucoup la façon dont elle dessine les filles. Il y a une des SDF, je trouve, qui est très stylée dans le graphisme. Ça reste humoristique sans aller dans le caricatural gros nez, comme on peut avoir. Par contre, de temps en temps, j'ai eu quelques soucis dans le positionnement des cases. Elle a essayé quelques trucs un petit peu originaux qui ne marchent pas forcément. Je pense qu'il faut peut-être rester plus classique sur ce genre de bande dessinée-là dans la mise en scène. Et par contre, il y a aussi un souci pour moi, c'est que les coloristes changent et que on a du coloriste très basique, je dirais, avec une couleur très simple, des aplats très très simples, et on a des coloristes très très bons avec des effets, quelque chose de vraiment qui met bien en valeur et bien en relief le dessin, que j'ai bien aimé.
Je trouve que c'est un problème un peu récurrent, on en avait déjà parlé la dernière fois. La couleur chez Bacabédé visiblement passe pas, quoi.
Il y a un manque de cohérence. En plus, je trouve que je sais pas d'où ça vient, mais l'ancrage fait un peu gras. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'impression. J'ai l'impression que c'est dans l'impression.
Pas mal.
Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Après, graphiquement, ça se tient tout à fait. J'ai déjà vu bien moins sympathique. Et c'est vrai que les gueules des SDF sont bien sympas. Je me demande si c'est pas une caricature d'Edmond Touriol, le chauve. Ouais, je sais pas, une vague idée comme ça, dites-moi si j'ai vu juste. Le scénario, j'ai mis sinusoïdal. Ouais, la classe. Hein.
Sinusoïdal.
Ouais.
J'ai mis grinçant.
Alors, moi j'ai mis sinusoïdal parce que y a des hauts, et puis il y a des bas, puis il y a des hauts, et puis il y a des bas, et puis ainsi de suite. C'est pas toujours de l'humour où on se fend la poire en deux. Il y a souvent un petit côté satirique. Un petit côté...
Ouais. Il y a un côté satirique, mais c'est vrai que moi, je suis resté un peu dubitatif sur le choix, quoi.
C'est-à-dire ?
Une BD sur les SDF.
Ouais, enfin, je trouve que c'est un sujet plus intéressant que les blondes.
Je suis d'accord. Mais... Est-ce que tu peux faire de l'humour dessus ? Est-ce que c'est voilà, je suis resté voilà un peu,
ouais,
un peu à me questionner sur l'intérêt du choix du scénario, quoi.
Ouais. Est-ce que c'est pas aussi le fait de questionner le lecteur ? Est-ce que c'est pas aussi une des volontés ? Je veux dire, quand on a reçu l'éditeur de Bacabd nous disait qu'il voulait aussi qu'on se questionne un peu dans ses BD, que c'était l'objectif de cette collection, hein. C'est dans la collection Ciboulot, je pense que c'est pas pour rien, que c'était des sujets de société traités de façon un peu humoristique, un petit peu...
Ouais, non, c'est... écoute, si c'est la volonté, voilà, j'y suis arrivé tout à fait, je me suis posé des questions.
Moi, je trouvais que, alors sans que ce soit toujours très drôle, même s'il y a quelques gags qui m'ont fait rire, ce qui n'est pas toujours le cas dans la BD à gags, je trouvais que ça brisait beaucoup de clichés qu'on a sur les SDF. Puis j'ai appris des choses sur les soutiens qu'ils peuvent avoir, sur comment on se marie quand on est SDF, sur pour avoir des papiers, ce genre de choses, les trucs qui demandent d'avoir un justificatif de domicile quand t'es SDF. Enfin, il y a un paquet de trucs, des choses auxquelles j'avais jamais pensé en fin de compte. Grand bien m'en fasse, hein, parce que je pense que le jour où tu commences à y réfléchir, c'est soit que t'es dans une asso, soit qu'il est trop tard. Ben voilà, oui. Donc moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant pour ça aussi.
Ouais.
Bon, donc bilan, pas. Tu trouves ça intéressant, mais bof, quoi. T'es pas emballé.
Bah, il y a des choses qui m'ont fait sourire, mais bon, après, voilà, je suis pas rentré pleinement dedans, quoi.
Peut-être trop social pour que ce soit drôle.
Peut-être. Ouais, peut-être pour ça que je suis un peu grinçant, quoi. C'est.
Ok. Allez, allégeons un peu le propos.
Là, on allège. Hein.
Nous allons partir sur
Shield. Le tome 1, qui s'appelle Le Bouclier ou.
La confrérie du bouclier.
La confrérie du bouclier.
Par Jonathan Hickman et Dustin Weaver. Pour le genre, nous avons dit que c'était de la conspiration historique. Mais de quoi que ça nous parle, Shield, mon ami?
Bah, la naissance du Shield. Et les origines du Shield.
Qu'est-ce que le Shield?
Alors attends, c'est quoi le.
Stratégique. Voilà. Bon, nous sommes dans l'univers Marvel. Et le Shield, c'est en gros leur super truc d'espionnage de super-héros. Et là, ça nous explique qu'en fait, le Shield, ça existe depuis super longtemps.
En utilisant plein de personnages historiques.
Vas-y, résume-nous le scénario. C'est ton tour.
Ouais, sauf que là, je l'ai lu.
J'ai dit résumé, allez, de base. Allez, hop.
Résumons. Les débuts du Shield datent de. La Renaissance, à peu près, voilà.
Je crois que ça commence limite dans l'Antiquité. Hein.
Bon, enfin, voilà. De longtemps. Plusieurs personnages historiques, on va dire, célèbres, ont participé à la naissance du Shield. Et le Shield, donc, est une confrérie qui essaye, en fait, de sauver le monde sans que le reste de la population ne le sache.
C'est le bouclier qui protège
l'humanité.
L'humanité. En fait, ce qui donne l'impression qu'ils ont trouvé l'acronyme après avoir trouvé le nom du Shield, puisque l'acronyme, il n'en est pas du tout question dans la BD. C'est du gros, du lourd. Hein. On va vite.
Qu'est-ce que tu as dit pour le scénario?
Je partirai sur le dessin d'abord, vas-y. Parce que je trouve que le scénario, le dessin, ça va aller un peu plus vite. J'ai mis clair.
Épique.
Vas-y, pourquoi épique?
Bah, ça claque. Ouais. C'est grand, t'as plein de. C'est, voilà, c'est lumineux, c'est des héros, quoi.
Ouais, ouais, t'as Léonard de Vinci qui est héroïque et qui vole. Dit comme ça donne super pas envie, en fait.
Ah, moi, je trouve que ça. Non, mais le dessin est super joli, c'est bien amené. Ils ont rajouté des sortes de faux documents au milieu, c'est. Voilà. Et puis, enfin, je sais pas, le caractère épique du dessin avec. Le Léonard, quoi, c'est un héros, quoi. C'est le Iron Man de l'époque.
Ouais, j'ai trouvé ça. C'est vrai que j'ai trouvé le dessin très très clair. Le côté, enfin, ça, je trouvais ça très agréable, justement. Alors, je dis pas que c'est de la ligne claire. Hein, il y a un peu des hachures, etc. Mais ça reste très très élancé. De temps en temps, il se permet un ancrage plus sombre pour des scènes un peu plus sombres, effectivement. Mais en règle générale, je trouve que le dessin de Dustin Weaver est dans la clarté et passe très bien, justement, effectivement, pour ce côté épique et héroïque. Il y a un petit peu de l'école Topco, mais en plus clair, je dirais. Époque, l'école Topco, c'est Sylvestri, Turner et compagnie, pour ceux qui connaissent. Le scénario, j'ai mis obscur.
Brouillon.
C'est bien le problème. C'est qu'en gros, dans cette BD, on suit en parallèle combien d'époques ? 4, un truc dans le genre ?
Ouais, 3 ou 4. Ouais.
3 ou 4 époques en parallèle. Alors effectivement, pour le côté conspiration, c'est super intéressant. Ça permet de bien gérer, l'amener des révélations. Parce que bien sûr, c'est un truc de conspiration, donc c'est que des révélations non-stop. Genre, en fait, c'est machin chose qui a fait ça. Ah, oh, j'aurais pas pensé. Ah, en fait, Galactus est venu il y a super longtemps sur notre monde, mais on le savait pas. Enfin, ce genre de truc-là. Maintenant, on s'y perd un peu. La lecture est assez aride et assez dure pour ça, et c'est dommage parce qu'il y a plein de moments qui sont très sympathiques. C'est une BD qui demande plusieurs lectures, je pense, pour être complètement appréciée. Genre d'avoir le tome, je crois que le tome 2 sera le dernier, mais genre de l'avoir, quoi. Pour pas se perdre.
Il n'y a que deux tomes ?
Je crois, ouais, c'est une maxi-série.
Mmh. Bah écoute, ouais, le tome 2, parce que bon, mais moi je trouve ça sympa.
Mais brouillon, toi aussi, ça t'a un peu.
Bah, brouillon, perdu. Parce qu'il y a trop d'informations, on va dire. Bon, déjà, c'est quand même un beau format, quoi.
Oui, c'est un beau pavé. Hein.
Mais c'est vrai que c'est brouillon parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'histoires qui s'entremêlent. Ça va se clarifier, quoi. Mais bon, je trouve ça intéressant, comme déjà de se pencher sur ce sujet-là, la naissance du Shield.
Et je trouve ça intéressant aussi l'approche de remettre les. Alors, un petit peu artificiel, mais de mettre les ancêtres des héros C'est vrai que c'est un peu artificiel, je trouve, dans le genre, de dire que, oh là là, mais quel hasard, on a Monsieur Stark et Monsieur Richards qui travaillaient ensemble dans le film d'avant. Enfin, ça, c'est vrai que c'est un peu facile. Tu sais, là, la coïncidence de la mort, quoi.
Ouais, mais bon.
Genre, on peut être un génie que si on a eu des parents géniaux. T'as déjà entendu parler des parents d'Einstein?
Bah, ça
Hein?
se trouve, il travaillait pour le Shield.
Ouais, si ça se trouve. On le saura dans le tome 2, sans doute.
Voilà.
Un beau récit et puis un beau pavé, pas trop cher, 14 € chez Panini Comics. Ça vaut le coup, je pense, de s'y intéresser, mais je me réserverai plus mon avis quand j'aurai lu le 2, quoi.
Quand il sortira.
On notera des superbes couvertures de Gérald Parel. Moi, j'adore hein, ce qu'il fait. J'avais découvert dans Métal Hurlant, les derniers, Gérald Parel, et il fait des dessins superbes. C'est un petit Français qui travaille donc maintenant chez Marvel sur des couves, et c'est au top.
Ce qui est dommage, c'est qu'on les a pas toutes en grand format, en fait, les couves.
Oui, c'est dommage. Bah, peut-être qu'il. Bah, c'est des épisodes très très gros hein, pour du Marvel. Hein. Je crois que ces épisodes font 32 planches, un truc comme ça.
Ouais, mais si tu veux, voilà, à la fin, quand ils te mettent deux couves par page,
Ouais, c'est un peu triste.
franchement, mais voilà, vous claquez un peu et tu nous rajoutes. Enfin, c'est un recueil de six bouquins, quoi. Alors, il y a déjà une qui est en pleine page, il t'en reste 5 à faire.
Oui, c'est un peu dommage.
Bon, c'est faisable, quoi.
Et comme on a décidé de partir sur des domaines super variés, on change encore totalement de registre avec le tome 2 de Petit Pierrot.
On avait chroniqué le tome 1 il y a juste là quelques mois.
Voilà, c'était du rattrapage à l'époque. Et là maintenant, on est dans les nouveautés parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps.
Il y a de ça quelques mois aussi.
De Alberto Varanda. C'est de la rêverie enfantine dans le genre. On est vraiment dans un côté un peu naïf. Et on a toujours cette histoire de petit Pierrot qui est amoureux de la lune. Sauf
Toujours avec
que.
son escargot.
Toujours avec son escargot de compagnie. Sauf que là, apparemment, la lune a de la concurrence à se faire.
Ouais, il a découvert les filles.
Ah là là là. Je crois qu'on a super résumé en fait. C'était
Bah, disons que le scénario est
simple.
toujours. Enfin, moi, j'ai mis rêveur, quoi.
Pour le scénario, j'ai mis naïf.
Naïf?
Ouais.
Ouais.
Naïf, c'est du rêve, c'est léger. C'est un moment tranquille, c'est des petits gags qui font sourire, c'est.
Ah bah, de toute façon, c'est le truc que tu vas lire en 10 minutes, tu te poses, tu te lis ça, voilà, ça va pas beaucoup te faire réfléchir, hein, c'est pas là pour ça. Hein.
Voilà, non,
C'est plaisant.
c'est mignon. Le
Mignon.
dessin.
Mignon.
Ah, poétique. Je trouve qu'il y a un côté dans la façon de ce travail des couleurs. Sur ces tons sépia ou très pastel, très clair, qui est très joli. Varanda a toujours un style aussi dynamique et aussi classe. Même si je resterai toujours réservé sur la coupe de cheveux de Petit Pierrot qui me perturbe. Oui, il m'en faut peu.
Ouais, je vais te dire, tu t'inquiètes quand même pour des détails, peut-être, non?
Oui, mais je suis comme ça, moi. Autre chose à rajouter? C'est la chronique, la fast chronique.
Bah, je crois que c'est la chronique la plus rapide qu'on ait faite, mais oui, il n'y avait pas grand-chose à raconter.
Voilà. Tu le recommandes quand même, parce que toi, tu as adoré.
Ouais, moi j'aime bien.
Voilà. Un cadeau sympa si vous voulez brancher une
Voilà,
fille.
non, ça, je vais dire, c'est un joli cadeau.
Eh bien, nous passons au tome 3 de Chronique des Immortels chez Paquet.
Dessinée allemande.
Oui, d'après le bouquin de Wolfgang Holbein et avec von Eckartsberg et von Kument, je prononce super mal, j'en suis sûr. C'est Faune, d'ailleurs, je crois. Hein. Enfin bon, j'en s'en fous. Qui est la fin du premier cycle de Chroniques des Immortels et donc la fin de l'adaptation du premier roman. Le genre, nous sommes dans de la low fantasy, classiquement. Hein, on va dire genre Trône de Fer et compagnie, même si c'est plus historique que dans le contexte, je pense que le côté historique, on s'en fout un petit peu.
De toute façon, le côté historique, c'est tu sais même pas où tu es en fait.
Le côté historique est moins important que dans Le Scorpion, pour dire.
Oui.
pour dire. Avec un petit peu de magie, mais très très légère. Et donc, toujours les aventures de cet immortel qui a récupéré un môme qui a les mêmes dons que lui. Et qui essaye de sauver la mère du môme, qui a été enlevé par des esclavagistes. Sauf que, pas de bol, l'immortel est tombé amoureux d'une fille dont il va malencontreusement
devoir tuer le frère.
Voilà, enfin c'est le jeune qui le fait, bon, qui fait le meurtre. C'est le gamin.
Ouais.
Bon. Et donc il doit gérer ce môme qui n'a qu'une idée en tête de vengeance. Cette fille qui n'a qu'une idée en tête, c'est de vengeance. Et lui qui n'a qu'une idée en tête, c'est qu'on lui foute la paix.
Lui veut la tranquillité finalement.
Voilà.
Alors au niveau du scénario, qu'est-ce que t'as dit toi ? Scénario ou dessin d'abord ? Moi j'ai le scénario parce que c'est...
Ouais, on va aller vite sur le scénario. Ouais. Alors moi j'ai mis déjà vu.
Moi j'ai mis, je pense qu'on est d'accord, hein, j'ai mis Highlander.
Ouais, bon, alors jusqu'ici c'était intéressant ce côté immortel qui doit truc. Et là on découvre qu'en gros il y a un truc genre quickening, hein, on résume rapidement, mais c'est un quickening vampirique.
Si un immortel tue un autre immortel, eh ben, il devient plus puissant.
Ouais, et là j'ai fait, ok... Ils viennent de me casser mon intérêt pour le truc. Alors même si, en fait, c'est le seul truc qui est important dans cet épisode-là, c'est qu'on apprend ça et ça tombe comme un soufflé parce que c'est déjà vu, quoi.
C'est dommage.
C'est vraiment dommage parce qu'il y avait un ton, il y avait un style. On pense forcément à Highlander dedans. Il y a une petite révélation sur comment est-ce que fonctionne pour les tuer, etc., qui fait que le héros, à un moment, pendant une demi-case, se pose une question genre, oh mon dieu, mais si j'ai fait ça, ça veut dire alors que ça a telle conséquence, mais je suis un monstre et je ne le sais pas. Sauf qu'ils auraient pu faire durer ça plus longtemps, ça aurait été plus intéressant que le « Oh, j'ai envie de la puissance de l'autre immortel !» qu'on avait déjà vu un gros paquet de fois.
Non. Non. Non, bah il y a combien de saisons à Highlander ?
Ouais, avec Connor. Merci. Non, Conrad. Connor, c'est... voilà.
Tu ne manques pas de notre Christophe Lambert national, s'il te plaît.
Christopher. Voilà, donc c'est dommage, parce que le scénario en soi n'est pas mauvais, mais il y a cette impression de déjà vu qui traîne jusqu'à la fin, quoi.
Bah ça gâche, parce que finalement, on n'était pas du tout... pas du tout là-dedans, quoi.
Surtout qu'en plus, ils résolvent pas vraiment le truc de sauver la mère. Il y a une suite qui est longuement bien annoncée. Voilà.
C'est un peu dommage, voilà, au niveau du scénario.
Le dessin.
Trois lettres.
Top. Clair obscur. J'ai recherché le nom de ces genre de la tour, tu vois. Hein. Je sais plus à quelle école il faisait partie, cette école flamande avec Georges de la Tour, tous ces clairs obscurs, ces lumières superbement travaillées, ces contre-jours magnifiques, on est dedans. C'est limite, des fois c'est tellement sombre qu'on se rend compte qu'il a dessiné les traits du personnage, mais comme c'est en contre-jour, on les voit pas très bien. Il y a un
vrai talent, je trouve, là-dessus.
Oui, la couleur est superbe. Il faudrait qu'il redessine le premier tome pareil, quoi.
Bah, disons qu'en même temps, c'est je sais pas si c'était son premier ou pas, mais bon, faut aussi que les gens progressent, quoi.
Ah ouais, mais là c'est pas du progrès. Il est sous stéroïdes, le mec. Il a fait un bond, il est dopé, quoi. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Seul truc qui fait bizarre, c'est que j'ai eu la vague impression qu'il utilisait des modèles 3D pour ses décors et voire pour les personnages. Et de temps en temps, ça me donnait une impression un peu choquante, un peu froide. Tu regardes une des premières planches où tu vois le gros bourrin en pleine planche là. Ça m'avait donné cette impression de qu'il y a un modèle 3D derrière, ce qui est peut-être pas le cas parce que le style est quand même qui m'avait un peu perturbé, mais ça reste très très joliment fait. C'est peut-être l'abus de texture qui fait cet effet là.
Peut-être.
Mais ça reste waouh. Le dessin et le scénario, on a tout fait, mais on a fini l'édition.
Bah, la couve est belle.
La couve est belle.
Ça ferait un peu penser au Christ, quoi. Je pense que la référence est claire, mais...
Oui, qui revient, parce qu'on va apprendre sans doute que le Christ était un immortel.
Ah.
C'est un grand classique, dès qu'il y a des immortels quelque part.
Révèle pas la suite.
J'en sais rien, mais j'avoue que c'est un classique. Toujours petit bonus de dessin de plein d'auteurs divers et variés derrière. Très sympathique, je trouve. Très, très joliment mis en page. Sauf que bon, ça fait pas beaucoup de pages tout ça, hein, encore.
36 pages.
Voilà, 36 pages de BD pour 13 euros. C'est un petit peu... un petit peu rêche, quoi.
On se rappelle presque d'Emmanuel Proust édition avec American... Last Day of American Crime, en fait. Hein.
Ouais, et encore, je trouvais que Last Day of American Crime, les bonus, c'était plus intéressant et justifiait un peu plus le prix, quoi.
Pour le premier.
Ouais, pour le premier. Enfin bon. Voilà. BD sympathique.
Sympathique, mais un peu cher. Voilà.
On va pouvoir passer au rattrapage.
Et là, c'est du lourd, un sacré pavé quand même.
Un sacré rattrapage aussi, parce que les gens vont dire quoi, vous l'aviez pas lu avant? Ah, vous êtes trop nul et vous vous dites chroniqueur BD. Vous êtes vraiment des tafioles.
Oui.
Oui, car nous allons parler de Persepolis. De Marjane Satrapi, dont je n'ai même pas vu le film non plus, tu vois, pour te dire à quel point je suis à la bourre sur ça.
On est chez l'association.
Oui. Et c'est donc de la bande dessinée intelligente.
C'est pas la première, c'est pas la première BD qu'on fait de l'asso.
C'est possible. Pourtant, j'adore l'association.
Je crois que c'est la première, en fait, parce qu'à chaque fois, si on pose la question à nos invités, l'asso ou le soleil, et ben, je crois que c'est la première qu'on fait.
Et pourtant, j'ai tendance à préférer l'association à soleil. Et soleil, on en a fait un paquet déjà. Donc, là, c'est l'intégrale. Ça a été publié en plusieurs tomes à l'origine à l'association. C'est un très très joli pavé qui a été réimprimé il y a peu, avec une nouvelle couverture d'ailleurs. Là, j'ai emprunté à mon frangin celui-là, avec cette couverture-là. D'ailleurs, à partir du moment où l'association a commencé à aller mieux, ils ont fait la réimpression, parce qu'avec leurs engueulades, c'est du mal. Ouais, c'était publié en 4 quatre tomes, je crois, 3 ou 4 parties. Ouais, 4 parties, c'est ça. Et ça nous raconte, déjà, le genre, c'est de l'autobiographie historique. Nous allons suivre la vie de Marjane, donc, qui nous raconte comment, lorsqu'elle était enfant, et qu'elle vivait en Iran, elle a vu sa société changer, la société changer, et comment est-ce que ça s'est passé. En gros, arrête de faire n'importe quoi avec le micro.
Je fais pas n'importe quoi, tu m'as dit il faut que t'aies le micro sous le menton.
Ouais, c'est ça. Non, il est à moitié allongé sur un canapé, et après c'est moi le feignant. En Iran, moi j'ai appris des trucs, hein. Franchement je suis nul en histoire, je le dis toujours, mais là j'ai appris des trucs. Et bah avant, c'était plutôt comme l'Europe, on va dire, hein, c'était pareil. Et puis un jour, il y a un peu les islamistes qui ont un peu pris le pouvoir, et c'était plus comme en Europe, et puis d'un coup, bah, les filles devaient se balader voilées, c'était interdit, et on va voir cette montée de l'islamisme en Iran. Et comment est-ce qu'on arrive à y vivre quand on est plutôt libéral, plutôt, on va dire, je dirais pas athée, mais plutôt laïque dans son éducation, dans la façon de faire les choses. Et comment une petite fille peut réagir à ça? Comment la petite fille peut réagir du fait qu'il faut qu'elle mette le voile?
Tu as ça, mais enfin, la question n'est pas...
Oui, il y a ça, parce qu'on la voit grandir, mais...
Enfin... Il y a ça qui est une des questions, mais c'est surtout aussi quand même la guerre Iran-Irak qui reste quand même bien présente. Quoi.
Qui reste bien présente. Bah, tu la vois arriver et progresser derrière aussi. Mais c'est vrai que moi, c'était l'entrée en matière de la première partie qui nous raconte vraiment ça. Où, ouais. Ouais, une petite fille, tout ce qu'il y a de plus normal, qui d'un coup, enfin plus ce qu'il y a de plus européenne dans le look, qui d'un coup se retrouve à devoir porter un voile et ça la gonfle. Puis t'apprends au fur et à mesure que plus ça va, plus il y a une façon de mettre le voile très précise et si tu le fais pas, ça craint. Mais si tu laisses dépasser des mèches, t'es peut-être une salope, tu vois, parce que t'as laissé dépasser des mèches de ton voile.
C'est ça.
C'est un peu de ça. Parlons du dessin. Parce que c'est ce qui va être le plus rapide, je pense. J'ai mis limpide.
Simple.
Simple. C'est du noir et blanc, tranché, aucun dégradé. Des traits très simplifiés. C'est pas... je dirais extraordinaire.
Non,
c'est
mais...
pas le truc que tu fais, waouh, c'est génial, je vais me faire un poster géant et tout.
Non, mais pour autant, tu vois, voilà, c'est un truc qui est super simple, mais qui en même temps te retranscrit bien les émotions, et la façon de vivre les choses de chaque personne, quoi.
C'est super efficace. Moi, je trouve qu'il y a une vraie réussite là-dedans, parce qu'il n'y a aucune fioriture, elle n'essaye pas d'en faire des tonnes pour raconter pourtant des choses qui sont assez exceptionnelles et assez énormes. Ça reste toujours simple.
Bah, je pense qu'il vaut mieux en fait, parce que je dirais que
Le poids de l'histoire est tellement important que si tu avais eu un dessin qui était beaucoup plus complexe, beaucoup plus travaillé, je pense que ça aurait pas eu du tout le même rendu, parce que finalement tu serais trop attaché au dessin.
Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un peu la même époque et la même maison d'édition, mais moi, ça me fait penser au dessin de David B.
Ouais.
Ce même côté très très tranché, et puis bon, on est aussi dans l'autobiographie dans les deux. Le scénario.
Instructif.
Effrayant. Instructif, vas-y, justifie-toi.
Bah, disons que bon, je connaissais vaguement l'histoire, on va dire, de l'Iran, et voilà, c'est quand même un témoignage qui est intéressant parce que du coup, tu rentres dans l'histoire, quoi. Tu vis l'histoire de l'intérieur et tu la vois pas simplement par l'intermédiaire de livres d'histoire, d'un wiki ou d'une encyclopédie, quoi. C'est quand même un peu plus complexe et un peu plus sans prendre parti, le récit qu'on nous fait justement de l'histoire un petit peu de l'Iran fait beaucoup réfléchir, on va dire, sur la situation actuelle, quoi. Et pas que de l'Iran, quoi, hein, de beaucoup de choses, on va dire, qu'on a vues.
Je reviendrai sur l'effrayant derrière. Moi, enfin, pour être dans ton sens-là, ça m'a donné presque envie de visiter l'Iran, en fait, parce que je me rends compte qu'il y a une richesse, que c'est la Perse, en fait, chose auxquelles je n'avais jamais pensé jusqu'ici. Pour moi, la Perse, c'était un endroit magique, mythique, de l'ancien temps, une société florissante, quelque chose de magnifique, et l'Iran, non, vraiment pas. Voilà, et le côté effrayant pour moi, c'est de voir, ouais, effectivement, comment un mode de vie, ça tient un peu de choses. Et comment on peut se retrouver du jour au lendemain, avoir son mode de vie qui change parce que des gens essaient de l'imposer. Et c'est effrayant parce que on voit bien qu'on a affaire à des gens qui sont cultivés, des gens qui ont des arguments, qui peuvent, enfin, qui font pas n'importe quoi et qui pourtant ne peuvent rien faire et qui sont victimes des mecs qui gueulent le plus fort et qu'on les flingue en gros. Et ça fait
Exactement.
peur. Et ça fait peur parce que, alors sans parler du côté islamiste, musulman, tout ça, je pense que ça peut toucher tous les domaines de la société et tous les domaines où on va avoir des fortes têtes et des gens pour qui la croyance est plus importante que la vie. Je suis un vrai philosophe quand je dis ce genre de phrase.
J'aurais même pas dit en fait. Non, j'aurais même c'est juste la quête du pouvoir en fait.
Oui.
Parce que finalement, la religion, c'est le truc qui est en. C'est le moyen, mais c'est pas le fond, quoi. Le fond, enfin, c'est la prise de pouvoir, point.
Oui. Et puis aussi, il y a aussi voilà, un truc qui est bien dedans, c'est le caractère de Marjane, qui est une petite rebelle. Mais alors, la petite rebelle.
Une petite peste, ouais.
Ouais, qui te demande comment elle a pu arriver assez grande pour écrire le bouquin en entier, parce qu'à plusieurs reprises, genre le gamin impertinent, t'as l'impression qu'elle risque. Enfin, pour elle, c'est une impertinence, et toi, quand tu le lis, tu dis, mais elle risque sa vie, là. C'est. Et donc, ça raconte pas que son enfance, on la voit quand même grandir, on a son adolescence, ses parents qui arrivent à l'envoyer en Europe
En
aussi.
Autriche, ouais.
Ce qui fait qu'on voit aussi sa vie d'expat en fait derrière, enfin d'expatrié, voilà. Et puis surtout le moment où elle doit revenir après, qui est dur. C'est un vrai, enfin, chef-d'œuvre, je pense, quelque chose qu'il faut avoir lu pour le côté historique, qui est intéressant, pour le côté sociopolitique, qui nous démontre des choses qu'on peut avoir tendance à oublier. Dans notre société fort sympathique de France, au final, on est plutôt bien. Hein.
Il suffit de peu de choses.
Voilà. Et puis aussi, d'un point de vue émotionnel, quand on a cette histoire de cette fille qui devient une femme dans des circonstances pas faciles.
Non, mais un vrai bon bouquin, quoi. C'est vrai que maintenant, du coup, on pourrait peut-être même faire le film, un de ces quatre.
Ouais, il faut qu'on le regarde et on le fera en hors sujet. Un de ces quatre. On se fera une soirée Persepolis. Je me demande comment est-ce que l'animation de ce dessin peut passer.
Je sais pas.
Les grands soldats. De Laurent Rivelègue et Olivier Talec. Chez Bayou, donc Gallimard. Une aventure de Catalcrane.
Trop bien.
Que nous comptent les grands soldats, cette bande dessinée d'aventure historique?
On va suivre l'aventure d'un géant irlandais qui vit chez ses parents, qui élève des moutons, qui ramène les moutons sous son bras à la bergerie, et qui va finalement se retrouver embrigadé dans la garde personnelle de l'empereur Léopold II.
Ouais. Vous avez vu le coup des moutons, comme vous avez senti le souffle épique, cette vie haletante et... Waouh !
Ouais, mais c'était trop bien.
Mais il se fait effectivement enrôler de force dans les troupes de Léopold II, et puis il a un petit problème personnel. C'est que quand il est contrarié...
Oui, il y a un chien rouge qui sort de sa tête.
Avec toujours le doute de savoir s'il y a vraiment un chien rouge qui sort de sa tête ou si c'est une métaphore.
Ouais.
Qui est très très bien gérée et très intéressante tout le long du bouquin en fait, jusqu'à la fin. Et donc il se retrouve enrôlé de force et puis il décide de coopérer un petit peu quand même au bout d'un moment parce qu'il se rend compte que c'est peut-être le meilleur moyen d'avoir la vie la moins difficile. Parce que son recruteur, qu'il recrute de force, n'est pas si méchant que ça.
Au début, il est quand même. Quoi.
Oui, au début, il est quand même parce que tu sens qu'il n'a pas le choix. Hein. Quand tu vois le caractère de Léopold II, tu te dis que voilà. Mais il s'attache à Catalcrane et il essaye de l'aider autant que possible. Scénaristiquement, c'est une odyssée.
J'ai utilisé deux mots, drôle et touchant.
Pour moi, il y avait ce côté l'Odyssée, quoi. Le mec qui se retrouve embarqué dans un truc plus grand que lui, qui ne sait pas pourquoi, tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui, qu'on lui foute la paix. Là, il s'intéresse en plus à une femme au milieu de l'histoire. Hein. Donc, il veut pas grand-chose, et il est au milieu de ce truc un peu surréaliste, hein, avec cette garde rapprochée de géants, qui, historiquement, est un fait réel. Il y a une petite annexe à la fin qui nous explique un peu tout ça, que j'ai trouvé super intéressante. Et toi, donc, le côté drôle et touchant ?
Drôle, ouais, voilà, la vie du géant, sympa. Voilà, moi, je trouve ça sympa. Et puis touchant, parce que justement, tu te retrouves avec ce grand gars qui se retrouve, qui part de son Irlande natale où il élevait des moutons, à devoir, du coup, se retrouver à faire la guerre, quoi. Alors, bon, on n'est pas allé jusque-là, mais il se retrouve dans une société dans laquelle il n'était pas fait, pas au début, on va dire, fait pour vivre, quoi.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a ce côté, ce décalage, ce grand gars qui est gigantesque, un peu niais aussi,
naïf.
Qui découvre le monde. Moi, j'ai pensé, et après, j'ai eu la arrête de frotter ce micro contre ta barbe.
J'entends pas.
Moi, donc, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait un côté de scénario de Sfar. Bon, c'est lui qui dirige la collection Bayou. Hein. Ça explique peut-être cela. Mais il y avait ce côté scénaristiquement qui me fait penser un peu au BD de Sfar. Alors, un peu plus, peut-être, je sais pas, un peu plus léger. Enfin, il y a le dessin qui s'en éloigne beaucoup. Donc, ce dessin que j'ai trouvé brut.
Agréable.
Ouais, mais c'est une brute agréable.
Brut, pourquoi brut ?
C'est du lâcher, quoi. C'est posé tel quel, on a l'impression qu'il, surtout dans les moments où le chien rouge se dévoile, où il lâche ses couleurs, il lâche ses crayons, il laisse les choses se poser directement sur le papier. C'est pas, je veux dire, il se contente d'un gaufrier super simple la plupart du temps. Et vu qu'il n'a plus à se poser les questions de la mise en page, j'ai l'impression qu'il se lâche dans son dessin pour être le plus efficace possible et le plus simple. Un côté très primaire, très primal, et qui va bien avec le personnage, je trouve.
Ouais, sur ces passages-là, parce qu'après, sur le reste, c'est quand même un beau travail quand même dans le dessin.
Ah non, mais je dis pas...
Non, enfin, dans le sens où, je veux dire, sur les passages, oui, où t'as le chien rouge, c'est vrai que du coup, il envoie le truc, mais sur beaucoup d'autres cases, t'as quand même un... C'est minutieux, ça prend du temps. C'est, moi, je trouve qu'il y a du détail, quoi, au contraire.
Ouais, mais même avec ces détails, moi, c'est l'impression que ça m'a laissé. Tu vois, je dis pas que c'est le cas sur tout. Enfin, le mot, pour moi, c'est l'impression que ça m'a laissé. Ce côté, le truc bien lâché. Alors même si oui, il y a des moments, des scènes un peu plus chiadées, etc. Mais ne serait-ce que quand tu vois les soldats en uniforme, t'as l'impression que les bandeaux jaunes qu'ils ont sur eux, ils ont été faits d'un seul trait, sans. Enfin voilà, c'est l'impression que ça m'a donné.
Ok, d'accord, je suis sûr.
Voilà, j'espère que nos lecteurs aussi verront ce que je veux dire.
Je sais pas.
Voilà, on verra. Dites-nous si vous n'avez rien compris. J'essaierai de m'expliquer plus clairement. Donc les grands soldats, c'était fort sympathique. Donc chez Bayou, ça coûte un code prix quelconque que j'ai 17 euros. Petit ouvrage sympathique.
Ça les vaut.
Encore un emprunt, mon frangin. Le meilleur du mieux. Qu'est-ce qu'on a aimé le plus de tout ça? Facile.
Bah écoute, là...
J'ai une hésitation entre deux trucs.
C'est ça, ben, je pense en fait on hésite tous les deux dans le rattrapage en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Hein.
On hésite entre Persepolis et les grands soldats. Les grands soldats, parce qu'il y a un petit côté léger, sympathique, on prend un plaisir. Persepolis, le côté léger est un peu moins présent, ce qui fait que ça laisse quand même une impression un peu plus amère dans la bouche à la fin, mais ça reste un chef-d'œuvre, quoi. Donc c'est un peu difficile. On va dire, si vous voulez passer un bon moment sans vous prendre la tête, lisez Les Grands Soldats. Il y a un petit côté historique sympathique et rigolo. Et si vous voulez vraiment avoir de l'histoire avec un grand H, j'allais dire avec un grand I, vous lisez Persepolis. Et voilà. Oui, c'est les vacances, tu comprends. Moi, je sais plus écrire en vacances. Sauf pour les mots fléchés.
Ben, j'aurais dit pareil, mais j'aurais plus poussé sur Persepolis quand même.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que les grands soldats, tu passes un bon petit moment. C'est vrai que, bon, en même temps, le côté historique, c'est plus un prétexte que l'histoire elle-même, quoi. Hein.
Je trouve que mon frère achète beaucoup moins de BD que moi, mais qu'il achète beaucoup moins de merde. Donc.
Ouais, ça, tu dis ça parce que t'as acheté le dernier Ultimate Avenger.
On en parlera plus tard.
Plus tard.
Mais d'abord, tu vas devoir le lire. Notre hors-sujet, nous allons faire un petit dossier pour notre hors-sujet sur un univers,
entier.
Sur un monde, sur quelque chose de terrible. Nous allons parler du donjon de Nalbuk. Mathieu se réinstalle bien sur son fauteuil, fait des bruits avec son micro que je vais devoir gérer au montage comme je peux.
Ouais, mais t'as trop de talent pour le faire.
Ouais, j'ai que ça à faire en plus. Et le donjon de Nalbuk. Donc le donjon de Nalbuk est à la base un feuilleton audio téléchargeable gratuitement sur le net, toujours d'ailleurs.
Qui a été créé en 2001
par Pen of Chaos. C'est le nom, le pseudo de l'auteur, ouais. Donc qui a un vrai nom que j'ai oublié.
Je ne sais pas si c'est son vrai nom, c'est John Lang.
C'est John Lang, ouais.
C'est son vrai nom.
Oui, c'est son vrai nom, je crois. Bah, sinon, ça voudrait dire qu'il a un pseudo pour son pseudo. Donc Poc aussi.
Aussi Poc.
Voilà, et qui était un feuilleton audio fortement inspiré de François Pérus, dont vous connaissez sans doute les 2 minutes du peuple.
Sur Rire et Chanson.
Oui, c'était sur d'autres trucs avant. Bah, mais bon.
Sur Rire et Chanson.
D'accord, sur Rire et Chanson. On mettra un lien vers Rire et Chanson, Théo, mais c'est bien parce que tu aimes cette radio. Et qui nous racontait les aventures d'un groupe d'aventuriers typiques de jeux de rôle, c'est-à-dire des bras cassés, des gens complètement nuls et débiles.
C'est ça.
Qui se pose des questions très stupides et avec des archétypes bien poussés et les petites voix rigolotes complètement bidouillées à la François Pérus. Il y a même eu plusieurs montages parce que je me souviens que les premiers enregistrements étaient faits dans des conditions chaotiques avec un matériel de merde. Ils les avaient refaits, etc. Et ça a eu suffisamment de succès pour qu'il se passe plein de choses autour du donjon de Nalbuk. Donc des t-shirts, des figurines.
Puis
édité par 7e Cercle, c'était tout ça.
Aussi des grandes explications sur combien est-ce qu'il faut de nains pour. Voilà. Percer 23 mètres de granit.
Ça, faudra que je mette le lien parce que c'est assez énorme. C'était une conférence qu'ils avaient fait à une convention de jeu.
Ensuite, ils ont fait aussi le Null Band.
Oui, parce qu'en gros, beaucoup d'entre eux étaient un groupe. Et ils ont formé un groupe qui fait des concerts dans les conventions de jeux de rôle l'été en général et qui, paraît-il, est assez rigolo à voir.
Yep. J'ai jamais vu, mais en fait, j'ai déjà écouté un CD. Ça, c'est quelque chose.
Ouais.
Bon, c'est de la chanson paillarde, hein, mais.
C'est de la bonne chanson paillarde. Est-ce qu'il y a le hérisson dedans? Non, mais ça, le hérisson, tu ne connais pas parce que c'est une chanson dans Pratchett dont on ne connaît jamais la fin. On ne sait pas ce que fait la dame avec le hérisson. Et donc, tu as ensuite eu la BD dessinée par Marion Poinceau.
Yep.
Marion Poinceau, qui a un style graphique très cartoony. Moi, j'accroche pas totalement à son style. Ça colle pas trop mal à Nalbuk, même si je trouve que les personnages se ressemblent un petit peu trop. Je pense qu'un gars comme celui qui avait fait Les Aventuriers du Dimanche, je sais pas si tu te souviens de ça, qui avait un style différent pour chaque type de personnage, on en avait parlé dans un online, qu'un style de personnage différent pour. Enfin, chaque personnage est dessiné un peu différemment, aurait peut-être mieux collé. Mais c'est vrai que ça aurait été peut-être moins ce côté un peu paillard de Cannibal Buck. Donc moi, je suis pas fan. Et surtout, en fait, pour moi, la BD avait un grand défaut.
C'est qu'elle reprenait intégralement le texte
Voilà.
des émissions.
Et les gags qui parfois passaient très bien en audio, bah,
Visuellement, ça donnait pas, quoi.
ça donnait pas parce que la chute se perdait. Par exemple, la scène où l'elfe tombe dans le puits marche très très bien en audio, avec le nain qui veut l'aider en appuyant sur ses doigts, mais marche beaucoup moins bien en BD. Alors bon, il y a eu quelques ajustements dans la BD au niveau du scénario, et donc moi j'avais été un poil déçu par la BD. On a aussi eu un jeu de société. Écrit par Antoine Boza et Bruno Catala, je crois. Je dis peut-être une bêtise. Je sais qu'Antoine Boza, c'est sûr. L'autre, je ne sais pas. Qui est un jeu de société rigolo où tu dois vraiment faire des conneries, qui avait l'air assez sympathique. Genre, tu dois réunir les lettres du mot baston pour pouvoir faire une action quand t'es le barbare. Mais t'as d'autres lettres à réunir quand tu es un autre truc et ça a l'air complètement débile. C'est du coopératif où les joueurs se tapent les uns sur les autres.
Ça peut être sympa.
Voilà. Et récemment, enfin je sais pas si c'est récent, mais en tout cas c'est ce qui nous a poussé à faire cette chronique-là. Nous avons les romans
Ouais.
de John Lang.
De John Langer. Alors, le premier, donc en fait, ces romans se situent après le Donjon d'Hallebeuc, enfin les émissions, c'est-à-dire
Après le feuilleton, ouais.
après le feuilleton, c'est-à-dire la statuette de Glardfratra.
Ouais.
Je n'ai plus le nom en tête. Mais c'est un truc dans le style. Et
Mais
donc
ils ont
là,
pris
donc.
d'Apex entre-temps.
Pas tant que ça.
Ah, la voleuse n'a pas un bonnet indécent.
Non, l'elfe.
L'elfe, pardon.
C'est l'elfe qui a un
C'est l'elfe
charisme
qui est.
qui grossit à chaque niveau. Donc c'était La Couette de l'oubli, le premier. Le tome 2, c'est. Enfin, la deuxième histoire, parce que ce sont des histoires indépendantes, c'est L'Orbre de Xaraz, qui a eu le prix Merlin en 2010. Et il y en a un nouveau qui est sorti, et là j'ai pas le nom en tête, parce qu'il est sorti, je l'ai pas acheté encore.
D'accord.
Et donc voilà, j'ai commencé à les lire, et bon. C'est sûr que
Et
ce n'est pas de la grande lecture, hein. C'est toujours l'histoire de notre petit groupe d'aventuriers qui se cherchent toujours un nom.
enfin, quand tu achètes un Hellebuck, tu veux pas lire un Houellebecq non plus. Hein.
C'est ça, tu vas pas envie de réfléchir. Du coup,
Nel Houellebecq.
l'écriture est toujours aussi sympa. Moi, ça me fait toujours autant sourire, autant rigoler à certains moments. Et puis, ça se lit vite, quoi.
Ouais, c'est-à-dire, c'est toujours aussi speed que. Est-ce qu'il y a ce côté hyper dynamique et hyper speed que tu avais dans la série audio?
Ben, je trouve parce que je vois pas la longueur en fait dans les
Il y
romans.
a, y a beaucoup de dialogues, parce que c'est vrai que la série audio marchait, parce que c'est que du dialogue et on arrive à imaginer tout ce qui se passe autour.
Ben tu as le dialogue, mais tu as aussi beaucoup la voix off, quoi.
Ah, les descriptions, c'est la voix off?
Ouais.
D'accord, oui, donc
Et donc du
effectivement.
coup toutes les descriptions, il y a des trucs, tu. Enfin,
Les descriptions, c'est le MJ, quoi.
c'est ça, c'est le MJ qui te met en place tout le truc et puis qui fait des petits commentaires sur ce qu'ils font, quoi.
Ah, donc il y a un petit essai au niveau de littéraire qui est assez original.
Puis là, tu as aussi les passages où tu as. Attends, je ne me rappelle plus le nom exact. C'est l'état cérébral, je crois. J'ai tombé sur un, c'est sûr, il y en a partout. Bulletin cérébral de la magicienne, du ranger, du barbare. C'est ce qui se passe dans leur tête, en fait, pendant qu'ils sont en train de parler.
Ok, ouais, c'est parti. Super famille, quelques figures de style rigolotes.
Et voilà, dans tout l'ensemble fait que c'est un truc très léger, c'est sympa à lire, c'est drôle. Ça reste bien dans l'ambiance de Nuhlbuck, peut-être plus que la BD.
Ouais.
Et puis bon, voilà, je trouve que c'est une belle réussite, quoi. Je sais pas, pour un truc qui au départ était un petit délire internet,
Qu'un gars a fait tout seul, ouais.
ouais, qu'un gars fait tout seul, voilà, pour se mettre, on va dire presque ses parties de jeu de rôle, tout ce qu'il a pu vivre online, et ben, du coup, c'est devenu un vrai petit succès, quoi, et c'est sympathique.
Et puis un petit phénomène, parce que les gens, enfin nous, nous avons vu nos parties de jeux de rôle, et je pense que c'est ce qui était défini dedans, mais des gens y ont vu leur partie de WoW. Je
C'est
pense.
possible.
Je pense pas, je vois pas comment un truc basé enfin, que sur des jeux de rôle pourrait avoir autant de succès, sachant qu'on a que les rôlistes sont de moins en moins actifs et présents. Enfin, c'est l'impression que j'ai.
C'est une espèce en voie de disparition, je pense, non?
Ouais. Bon. Tu vas voir le nombre de rôlistes qui vont dire non, c'est pas vrai, nous on joue toutes les semaines et tout.
Mais vous avez de la chance.
Bande d'étudiants, on va. Et donc, voilà. Donc, Nuhlbuck, t'as bien aimé ça. Bah moi, j'aurais tendance à recommander de toute façon, à la base, d'aller écouter le feuilleton audio,
Ouais.
qui est magique, qui est vraiment très, très, très drôle. Il y a 2 saisons, il me semble.
Je sais plus.
Et que j'aime beaucoup. Je sais pas s'il continue à en faire. Ce serait presque triste parce que c'était une vraie réussite. Bon, après, il y a toujours la difficulté de peut-être se répéter avec ce genre
Bah disons
d'univers et de gags.
il faisait plein de références à beaucoup de choses, donc je pense qu'il y a un moment où tu peux plus trop trop plus en faire quoi. Faut passer à autre chose.
Ce que nous faisons maintenant, en concluant cette émission...
Déjà ?
Eh oui, déjà, mon ami. Déjà. Cela fait à peu près 49 minutes que nous parlons. Ce qui est assez raisonnable, n'est-ce pas, amis lecteurs qui en avaient marre de nous entendre digresser. Nous vous rappelons que vous pouvez voter pour la BD que nous allons acheter avec...
Avec vos sous.
Avec vos sous. Les sous que Amazon nous donne grâce aux choses que vous avez achetées. Donc continuez à acheter des choses en utilisant nos widgets.
Même si vous achetez pas des bandes dessinées.
Ouais, ouais, genre passez par notre widget pour aller vous acheter un moniteur très très cher, une PlayStation.
Des jeux, enfin tout ce que vous voulez, mais passez par notre widget. Franchement, on l'a dit à tous nos amis, ils font tout ça maintenant. Et c'est aussi grâce à eux que ça fonctionne.
Ouais, merci maman. vous pouvez choisir entre Pyongyang, le bleu est une couleur chaude, Roscoe le rouge et Doggy Bags. Je mets tout de suite là maintenant le module de vote, donc vous pouvez voter au moment où vous m'entendez parler. Et je vous rappelle que vous pouvez choisir parmi notre collection de BD des sujets dont vous voulez qu'on parle, c'est totalement open.
Surtout dans l'intégrale, visiblement.
Voilà, il y a eu quelques modifs sur le site, car le thème du site a été modifié, donc en théorie tout marche, mais si vous voyez des trucs qui ne marchent pas, dites-le moi, parce que j'ai peut-être pas tout vu.
Ne me le dites pas à moi, par contre.
Ouais, non, parce que toi, de toute façon, il n'y a aucun moyen de te contacter sur Internet. Alors que moi, vous pouvez aller sur mon compte Twitter, OneAIPied, la page Facebook du OneAIClub, OneAIClub, et puis aussi maintenant sur le compte Google+, Pierrick Le Borgne. Ouais, là, j'ai pas pu faire autrement. J'ai dû mettre mon vrai nom qui ressemble à un pseudo. Voilà.
Les gens vont me retrouver.
Et donc... Si vous êtes un de mes étudiants, sachez que je mettrai dans une de mes prochaines interros une question spéciale bande dessinée. Ah. On se dit donc à dans 3 semaines pour le coup.
Pour le 11 septembre.
Ouais, nous on va lire plein de BD, des tours de BD, et nous allons tenter de ne pas les faire tomber.
Certains, ce sera peut-être pas mal si ça tombe. Hein.
Voilà. À dans 3 semaines.
À dans 3 semaines, ciao.